La revue de presse, Claude Askelovitch. Bonjour Claude, et on parle de WhatsApp ce matin.
La messagerie WhatsApp que nous utilisons pour envoyer sur le smartphone de mamie la photo des petits en vacances, mais qui est WhatsApp au Brésil, le vecteur de la haine qui encercle l'élection présidentielle. C'est raconté par Le Monde, qui reprend un scandale soulevé par la Folia de Sao Paulo. Quatre services spécialisés dans l'envoi de messages en masse sur WhatsApp avaient signé des contrats de plusieurs millions de dollars avec des entreprises qui soutiennent Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite et favori du second tour de dimanche. Et les dégâts sont évidemment considérables dans un pays où WhatsApp a supplanté les courriels et les SMS avec un atout maître. WhatsApp, application familiale de petits groupes chaleureux, incite à la confiance. On croit ce qui vous vient de WhatsApp, et les électeurs de Bolsonaro ont donc admis, ainsi que le candidat du Parti des Travailleurs, voulait généraliser un kit gay pour enseigner l'homosexualité aux enfants dès l'école primaire. Dans La Croix, je lis l'avocate Maria qui, elle, a reçu sur son WhatsApp familial des images de Vénézuéliens qui mangent dans des poubelles, et chacun sait que la gauche brésilienne veut transformer le pays en Venezuela. Le Brésil, ce matin et toute la semaine, fascine et a fasciné les journaux par sa décomposition et par le nouveau monde atroce qu'il laisse augurer, un fascisme tropical, dit Lopes, un monde régressif, imprévisible et dont les structures ont disparu. Le journal en ligne Slate a exploré cette semaine ces effondrements. Il raconte par exemple la défaite du catholicisme de gauche qui s'engageait auprès des pauvres dans les luttes sociales et des messes colorées au cœur des bidonvilles, désormais débordées par des évangélistes dont l'idéologie a éteint la conscience politique. C'est une relation privée, personnelle avec Dieu, avec lequel vous allez trouver des solutions à vos problèmes, mais s'il n'y a plus de politique et de collectif, alors tout est possible. Dans Slate encore, l'ancien patron de l'audiovisuel public brésilien, Ernesto Bussi, résume la tragédie du pays. Bolsonaro, c'est une antiquité qui nous arrive du passé via WhatsApp. Son logiciel est celui de l'idéologie militaire brésilienne du 19e siècle. Mais il n'y a pas que l'idéologie. Dans Le Monde encore, vous lirez un long reportage sur la chute de Rio de Janeiro, qui fut la ville merveilleuse quand le président Lula disait que Dieu était brésilien. Mais Le Monde raconte la chute et les mouvements sociaux avant la Coupe du Monde de 2014, l'humiliation de la défaite contre l'Allemagne, la saleté, la corruption, la crise économique et l'aboutissement infernal, l'incendie du musée national qui portait la mémoire d'un pays, mémoire partie en fumée. Il ne reste que la colère, la peur, la mort, car avant la propagande et l'idéologie, il y a ceci, on meurt au Brésil de délinquance, dit Le Monde, 15 homicides chaque jour à Rio, où les véhicules blindés des militaires encerclent déjà les favelas, la mort et l'armée dans les rues, comme avant. Comme avant, dans Slate, un vieux dominicain, Frei Neto, attablé à Ipanema, envisage de revenir à la clandestinité qu'il connut dans les années 60. Dans le New York Times, le grand musicien Caetano Veloso se souvient qu'il fut en prison sous les militaires et il pleure son ami Moado Katende, maître de capoeira, poignardé par un partisan de Bolsonaro. Il prédit des temps sombres pour son pays, Caetano Veloso, quand s'avance un ancien capitaine porté par l'application de nos vacances.
Et en Europe, Claude, Emmanuel Macron veut se battre contre les nationalismes.
Ce qui est la une du Figaro, qui décrit méticuleusement, mais avec doutes et pincettes, la stratégie du président français contre le Hongrois Orban et l'Italien Salvini. Il n'y a pas une demande de repli nationaliste, mais une demande de protection, ponctue dans le Figaro le politologue Dominique Régnier. Elle s'apprécie peut-être, cette protection, dans les colonnes de l'Indépendant. Car à Perpignan, la famille Mitage, des Albanais, menacés chez eux par un clan mafieux, ont été expulsés vite fait par avion hier. Les professeurs Damarilda, 16 ans, sœur de Kevin, 10 ans, protestent dans le journal Les Entendons. Dans le Figaro, on préfère faire de la diplomatie avec le président Macron, qui veut donc séparer les républiques tchèques et slovaques de la Hongrie et de la Pologne. Mais dans Le Monde, question au Premier ministre tchèque Babis. Après les élections européennes, préféreriez-vous faire alliance avec le libéral Macron ou avec le souverainiste Orban? Réponse: aucune idée. Mais Babis ajoute que l'Europe, c'est le village assiégé d'Astérix. On a le droit de défendre nos frontières, notre style de vie, l'héritage de nos ancêtres, notre culture. Oui, mais l'Albanie, c'est en Europe. À propos de Tchèque, Libération raconte dans le détail le millionnaire tchèque Daniel Křetínský, qui est entré au capital du groupe Le Monde et qui possède déjà Marianne et qui semble avoir tous les attraits d'un de nos entrepreneurs modernes et cultivés et amateurs d'art, un occidental, ce tchèque. Mais il tient sa fortune quand même du transport de gaz russe. Cette semaine, cela dit, tandis que le magazine des Échos raconte, superbe enquête, les doutes de notre géant de l'énergie EDF, Marianne, le journal de Kretinsky, soutient le moral du pays dans un bel éloge sur le terrain dans les entreprises du Made in France. De quoi avoir peur? Non, certainement pas. Faut-il, avec soupçon, regarder les journaux? La question de la presse et de l'information revient partout dans les débats politiques. Et si WhatsApp est le sujet du Brésil, la télévision Fox, en une du magazine du Monde, est le sujet de l'Amérique, elle qui protège des mauvaises nouvelles l'électorat de Trump. Faut-il vérifier les médias, même insoupçonnables? Vous lirez dans Mediapart et le Bondy Blog une contre-enquête très acerbe contre le livre Inch'Allah, ce livre dont nous avons parlé à France Inter de jeunes journalistes pilotés par les vétérans de l'investigation Fabrice Lhomme et Gérard Davet sur l'islamisation de la Seine-Saint-Denis. Eh bien, répondent Mediapart et le Bondy Blog, les jeunes journalistes ont accumulé les poncifs sur un département pauvre, alors qu'en réalité, ils tenaient un scoop. Les dysfonctionnements des services de renseignement qui ont privé la Seine-Saint-Denis de surveillance de l'islamisme radical entre 2010 et 2013. Attaquer l'État et non pas la société. Une leçon de journaliste contre des journalistes qui ont fait la leçon.
Et un homme qui se réinvente enfin, Claude.
Pour en finir, mais quelle joie. Un homme qui a connu la gloire, l'amour et le palais princier, mais qui est parti à la base redécouvrir l'Amérique et son métier. Gad Elmaleh, dont Vanity Fair raconte l'épopée outre-Atlantique. Il a décidé de reprendre le boulot à la base pour se risquer au stand-up. Cet art des blagues rapides sur une scène, tout proche du public. Cet art de la classe ouvrière américaine inventé par des comiques dont les parents étaient des immigrés, et Gad Elmaleh est allé se taper des bides dans des centres commerciaux comme à Pittsburgh en Pennsylvanie, mais il a réussi le bougre, il est de nouveau vedette, champion du monde, lige dans Vanity Fair, ça va.
Merci Claude Askolovitch.